Bonjour. Toujours des inégalités, non? Avec Arnaud. Et il est grand, il est blanc, il a les yeux bleus. Ça va bien? Eh oui. Nul n'est parfait, Arnaud, nul n'est parfait. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien. Et donc, maintenant vous savez tout sur nous. Je suis marié à Jessica, nous avons 3 enfants. Nous sommes originaires de Grenoble, de cette église. Et ça fait donc bientôt 2 ans que nous vivons en Écosse, où nous nous formons pour servir le Seigneur. Et ce matin, je voudrais que nous partageons ensemble un texte de circonstance, puisque nous allons ouvrir nos Bibles. Le jour des rameaux, c'est aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les évangiles. Je dis bien les évangiles parce que j'ai envie d'être fou ce matin. J'ai envie qu'on utilise les 4 évangiles. Soyons fous. Donc ce que je vais faire, pour que tout le monde puisse suivre un petit peu, c'est que je vais lire Marc. Mais si certains veulent prendre Matthieu 21 à partir du premier verset et suite, ou Luc 19 à partir du verset 28, ou Jean 12 à partir du verset 12, sentez-vous libre, puisque nous avons la grande joie d'avoir 4 évangiles qui nous rapportent cet événement où Christ rentre comme un roi dans Jérusalem, ce jour où il a été acclamé comme roi. J'ai bien aimé la prière de notre frère qui a dit ça justement, qu'aujourd'hui nous voulons nous rappeler de ça. Lisons dans Marc, ou Matthieu, ou Luc, ou Jean, celui que vous voulez, mais Marc, pour ceux qui veulent suivre avec moi, Marc 1, Marc chapitre 11, pardon, verset 1. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est au-devant de vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David de notre Père, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Afin de bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, pour comprendre l'importance et la portée de cet événement, on va s'attaquer au contexte. Je pense que l'événement lui-même, on arrive à le cerner. Jésus demande un ânon, monte sur cet ânon, rentre dans Jérusalem. Je vous fais grâce de la géographie, mais il n'est pas très loin de Jérusalem. Et il arrive directement au temple. L'histoire est simple. On n'a pas beaucoup de théologie dans cette histoire, mais par contre, le contexte va être vraiment important. Et je vais prendre les 4 évangiles, comme je vous ai dit. Premièrement, parce que les 4 évangiles, comme vous le savez, ont été écrits par 4 personnes différentes qui vont restituer dans leurs évangiles respectifs ce que Jésus a enseigné, ses moments de vie, mais ils vont le faire avec leurs propres mots. Si chacun des 4 évangiles fait référence à ce moment si important, c'est peut-être parce que ce moment a bel et bien existé, et peut-être aussi que ce moment est bel et bien important pour nous, pour comprendre qui est Jésus. C'est vrai que les auteurs des évangiles ne nous présentent pas toujours les mêmes enseignements, miracles ou événements dans le même ordre ou de la même façon. Certaines fois, nous en avons même dans certains évangiles et pas dans l'autre. Mais là, aujourd'hui, on a ce privilège d'avoir dans les 4 évangiles cet événement qui nous est rapporté. Jean nous dit, en effet, dans son évangile, à la fin de son évangile, Jean 21, verset 25, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Donc il y a beaucoup d'autres choses. Donc vous voyez l'importance de rester focalisé sur ce texte parce que les quatre évangiles nous en parlent. Je ne vais pas prendre l'événement et on va suivre l'événement comme ça pour comprendre de quoi il parle. Ce que je vais faire ce matin avec vous, c'est qu'on va essayer de comprendre ce que les gens qui étaient là, les protagonistes de l'histoire, ceux qui ont vécu ça, comment ils ont vécu, comment ils ont vu cet événement. Et on va commencer par, je pense, les plus nombreux à l'époque, la foule. Les Juifs, le peuple de Dieu, à cette époque, attendaient un roi, le Messie, loin de Dieu ou choisi de Dieu. Ils attendaient quelque part un sauveur politique qui les libérerait de l'oppression romaine. Pour faire simple et clair, le peuple de Dieu, il veut un roi pour ses propres besoins. Un besoin qui est immédiat et très pratique. Malheureusement, on a l'impression que l'histoire se répète. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, si vous connaissez l'histoire du peuple juif, mais dans 1 Samuel 8, on a cette histoire où Dieu est souverain sur son peuple, mais le peuple veut quand même un roi, pour faire comme tout le monde. Un roi qui va s'occuper de leur menu détail, de tout ce qu'ils ont à faire dans la journée. Ce qui est bizarre quand même, parce qu'ils ont le Dieu créateur de l'univers, prêt à être leur roi, à être leur souverain, et eux, ils veulent quand même un roi humain. Le peuple préfère un roi faillible et humain, alors qu'ils ont le Dieu créateur de l'univers qui veut être leur roi. Dans le contexte de notre événement du jour, le peuple veut voir le royaume de Jésus mis en place tout de suite, nous dit Luc, chapitre 19, verset 11. En fait, il voudrait même le prendre de force pour le faire roi. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset dans Jean 6, 15. Ils veulent le prendre de force pour le faire roi. Mais mettons-nous à leur place. Jésus est puissant. Il fait des miracles, il parle bien, il dit des choses intéressantes. Ben oui, prenons-le, faisons le roi. Nous, on a les Romains, on s'en fiche, on veut Jésus. Mais ils le veulent comme un roi, peut-être pas comme le roi. Je suis peut-être dur avec le peuple, mais n'oublions pas que c'est cette même foule, ce même peuple qui, quelques jours plus tard, va crier « Crucifie-le » à Pilate. Cette attitude démontre bien, en quelques chapitres, l'incompréhension envers Jésus, le véritable roi. Regardons l'événement en lui-même. Je vais faire un mixte des trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Tout d'abord, Jésus arrive sur un ânon. Alors, je suis sûr que ce matin, tout le monde est au fait de ce que ça veut dire, puisque tous les jours, nous venons à l'église avec un ânon. C'est une marque royale, une marque d'utilité, selon la tradition juive. Le peuple sait bien, parce qu'il se souvient de l'histoire du roi Salomon. Son père, David, lui demande de rentrer pour être roi sur un ânon. Ils le savent, ça fait partie de leur héritage. Cette humble entrée sur un ânon fait aussi écho à la prophétie concernant le roi dans Zacharie. Vous pouvez avoir ça aussi dans deux des évangiles, Matthieu et Jean, Zacharie 9:9. Les Juifs connaissent bien cette parole. En réponse à cela, le peuple étale des manteaux et branches de palmier sur la route comme une marque de respect pour quelqu'un de très important. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Il y a de la joie. Le peuple est en joie. Il chante des chants de louange et de gloire. Hosanna au fils de David. Viens donc, fils de David. Encore une référence faite au roi David, roi symbole de la puissance du royaume juif d'antan. Cette parole fait aussi référence à la promesse faite au roi David qu'il y aurait un roi de sa descendance qui régnerait pour toujours. Il continue, le peuple, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Le peuple clame ici sa joie du psaume 118, versets 24, 25, 26. La joie qu'ils ont de voir Jésus et de dire qu'il est béni parce qu'il vient de la part de Dieu. Tout ceci est vrai. Tout ceci est absolument vrai. Le peuple clame la vérité concernant Jésus. Mais ma question est, pensent-ils vraiment ce qu'ils sont en train de dire ? Est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'ils connaissent que c'est leur histoire, qu'ils se disent « Ah tiens, celui-là, peut-être que c'est le bon. » Est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer ? Pourquoi je dis ça ? Si vous prenez Matthieu, Matthieu 21, versets 10 et 11, « Le peuple est en émoi, nous dit Matthieu. Toute la foule, pas un peu, toute la foule, tout le monde est en train d'acclamer Jésus. » Mais il se pose des questions, pas une en particulier. Imaginez le peuple en émoi, « Ouais !» Et au fait, c'est qui ? C'est pas moi qui le dis, c'est Matthieu qui le rapporte. Ah oui, c'est le prophète de Galilée. S'imaginez la référence. Le prophète de Galilée. Ok. On se demande bien pourquoi ils s'exultent de voir Jésus, si au fond ils ne comprennent pas qui il est. Le peuple juif semble aveuglé par leur attente de ce que Dieu pourrait leur apporter et ne comprennent pas de quoi Jésus est venu les libérer. Jean, lui, dans son évangile, chapitre 8, verset 24, nous le rappelle. Jésus est venu nous libérer et mourir à cause de nos péchés. Il est venu nous libérer de notre péché et mourir à la croix pour notre péché. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a quelques incohérences ici. Peut-être qu'on peut trouver d'autres informations dans le texte pour nous aider à comprendre si cette incohérence du peuple est justifiable. Après tout, il se pourrait qu'ils aient une bonne raison, une bonne excuse pour ne pas comprendre. Regardons alors ce qu'il se passe avant notre événement dans les évangiles. Dans Luc, tout d'abord, vous avez la rencontre de Jésus avec Zachée, juste avant l'entrée royale de Jésus. Jésus sauve un riche collecteur d'impôts, que tout le peuple connaît très bien parce qu'il ne l'aime pas, collecteur d'impôts. Et Luc nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Aucune mention des Romains. Il est venu pour ceux qui étaient perdus. Luc relate cette histoire pour nous montrer pourquoi Christ est venu sur terre. Il n'est pas venu pour être le roi qui va mettre les Romains dehors, mais pour être le roi qui sauve des âmes. Et ensuite, dans les trois évangiles, Marc, Luc et Matthieu, juste accolés à l'entrée triomphale de Jésus, vous avez l'histoire d'une guérison. Alors dans Marc et Luc, il y a un seul aveugle qui est guéri. Dans Matthieu, je ne sais pas si c'est parce qu'il était collecteur d'impôts, mais il y en a deux. Donc guérison d'un ou des aveugles. Et j'aimerais que nous retenions juste deux choses sur cette guérison. La première, c'est l'interpellation d'eux ou des aveugles faite à Jésus. De nouveau, en référence à la lignée royale de Jésus. Jésus, fils de David. Ils interpellent Jésus en l'acclamant fils de David. Même l'aveugle, qui je ne sais pas si vous le savez, est considéré comme un rebut de la société, même lui, il sait que quelqu'un de la lignée de David doit venir et ça va être un roi. Ils attendent un roi. Cette attente est ancrée dans tous les esprits du peuple. Ce qui nous amène à la remarque suivante, la question de Jésus. Est-ce que vous avez lu la question de Jésus ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Dit-il à l'aveugle ou aux aveugles. La réponse semble évidente, il est aveugle, rebut de la société, il a besoin d'être guéri. Mais Jésus pose la question, peut-être en réponse à l'interpellation. Tu m'as appelé fils de David, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu sais vraiment qui je suis? Est-ce que je suis le roi politique dont tu as besoin? Ou est-ce que tu sais que je suis le fils de Dieu qui vient pour sauver ton âme? Chacun des trois évangiles dresse donc un contexte peu reluisant pour le peuple, qu'il aurait pu comprendre, mais qu'il ne voit pas. L'ignorance et l'aveuglement dont fait preuve le peuple de Dieu sont à leur apogée lors de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, le roi des rois, venu pour instaurer son royaume. Et dans Jean, chapitre 18, verset 36, Jésus dira lui-même, « Ce royaume n'est pas de ce monde. » Un royaume différent qui a pour objectif de sauver des âmes. Alors, vous allez me dire, c'est facile, c'est le peuple. Mais que pensent ceux qui savent, ceux qui peuvent comprendre, analyser et lire entre les lignes? Des gens comme les pharisiens, par exemple, ceux qui étudient la parole de Dieu, ceux qui lisent la parole de Dieu, qui connaissent la loi. Alors pour eux, c'est plus simple et peut-être plus direct. Jésus est un imposteur et ils veulent l'éliminer. C'est direct. Ils s'arrangent bien avec les Romains. Ils ont leurs petits trucs, même dans le temple, ils ont leur vente et tout, ça va bien. Ils n'ont pas forcément besoin que quelqu'un vienne y mettre son nez. Dans Jean 11, versets 47-48, je vous paraphrase un petit peu les deux versets. Il y a un grand conseil qui se regroupe. Et ils parlent de Jésus, parce que Jésus leur pose problème. Si Jésus fait trop de remous, les Romains vont s'en mêler et détruire le temple et la nation. Alors tuons-le. C'est mieux pour tout le monde. On va tuer Jésus, comme ça c'est fait. Et en fait, quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que c'est bel et bien ce qui va se passer quelques années plus tard. Le temple, la nation, tout va disparaître à cause des Romains. Parce que Jésus va être justement ce roi mais un petit peu différent, ce roi serviteur. « Fais les taire !» vont-ils dire à Jésus. « Silence !» lors de l'entrée sur l'Anon, Luc 19, 39, 40. « Fais les taire. On ne veut pas qu'ils t'acclament. C'est pas toi le vrai roi. » Et Jésus dit quoi? Regardez la réponse de Jésus. « Les faire taire? Mais les pierres crieront à leur place si je les fais taire. » Ce qui est en train de se passer là, ce jour-là, quand Jésus rentre dans Jérusalem, dépasse l'entendement humain. Dieu, en la personne de Jésus, retourne dans sa maison, dans son temple, pour régler le problème que l'humanité a avec le péché. Jésus vient se présenter au temple comme l'agneau qui va être sacrifié une semaine plus tard, en guise de rançon pour nos fautes. C'est pour cette raison que Jésus rentre en tant que roi humble et puissant à la fois dans Jérusalem ce jour-là. Et toute la création, les pierres même, seraient prêtes à acclamer ce roi serviteur prêt à s'offrir pour nous. Malheureusement, les sachants ne veulent pas comprendre. En réalité, les pharisiens rejettent l'autorité de Jésus. Texte que vous pouvez trouver dans les trois évangiles juste après l'entrée de Jésus dans Jérusalem. C'est clair, ils rejettent complètement Jésus. Son autorité, ils ne veulent même pas en entendre parler. Parce que Jésus dit être envoyé par Dieu. Jésus dit que son autorité vient de Dieu lui-même. Et Jésus va même plus loin. En Jean 10, 22 à 34, il avoue être à l'égal de Dieu. Proclamation qui ne peut pas être acceptée dans l'esprit légaliste d'un pharisien qui ne comprend pas que Dieu puisse venir sur terre en tant qu'homme pour payer pour nous. Alors si on peut comprendre, entre guillemets, pourquoi les pharisiens réagissent comme cela, le rejet qu'ils ont et refusent de voir Jésus comme le roi, qu'en est-il des disciples? Ce sont aussi des personnes qui sont là, dans la foule, parmi la foule, les pharisiens, Jésus, les disciples, ils sont là, les disciples. Qu'en est-il des disciples? Qu'est-ce qu'ils ont compris ce jour-là? Et là, je vous invite à prendre Jean, chapitre 12, et lisons ensemble le verset 16, parce que j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu ce verset. J'étais à fond dans ma préparation, et j'ai lu ce verset et j'ai éclaté de rire. Verset 16 du chapitre 12 de Jean. « Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. » Le message, il est clair. Ils n'ont pas compris. Ils ont obéi, ils sont allés chercher l'Anon, ils ont vu Jésus, ils ont peut-être même chanté comme tout le monde, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du... » Mais ils n'ont pas compris. Et pourtant, le contexte, pourtant ils savaient ce qui attendait Jésus. Puisque dans les trois évangiles, de nouveau, juste un petit peu avant cette entrée, Jésus les prend à part et leur explique. Pour la troisième fois même, il leur explique encore. « Je vais à Jérusalem, je vais mourir, je vais payer pour vous et je vais ressusciter. » Il leur a dit, mais ils ne comprennent pas. Luc nous confirme que là encore, ils ne comprennent pas. En fait, après presque 3 ans aux côtés de Jésus, les disciples ont toujours un petit reste de leur tradition judaïque. Ils s'attendent aussi quelque part à un royaume, tout de suite, là, maintenant, à un royaume physique. Comment on le sait? Il y a une demande un peu particulière, juste avant cette entrée triomphale, de Jacques et Jean. Dans un des évangiles, c'est Jacques et Jean directement, dans l'autre, c'est leur maman, qui leur demande à Jésus quelle place il pourrait avoir quand tu seras roi. Est-ce qu'on pourra être l'un à ta droite, l'autre à ta gauche? Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont honnêtes. Ils le disent. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Si tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et entre autres, cette histoire de Jésus était fausse, maquillée, falsifiée, et si je voulais promouvoir un Jésus glorieux, je n'écrirais sûrement pas dans un des évangiles qui raconte l'histoire de Jésus que je ne comprends rien à ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Ils sont honnêtes, parce que si ce qui s'est passé, c'est vrai. Sur le coup, ils n'ont pas compris. Mais je n'ai pas été juste parce que je n'ai pas lu le verset jusqu'au bout. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles étaient arrivées. Je crois qu'on ne peut pas parler de cet événement sans regarder de plus près le point de vue de Jésus lui-même, ce que lui a vécu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la progression, j'ai essayé de partir du peuple qui ne comprend pas, les pharisiens qui ne comprennent pas non plus, et je suis arrivé jusqu'aux disciples qui ont pensé peut-être qu'ils pouvaient comprendre quelque chose, mais ils ne comprennent pas non plus. Donc on arrive à Jésus. Et là, c'est complètement différent. Ce jour-là, Jésus contrôle absolument tout. Une maîtrise parfaite de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se dérouler. C'est tout l'inverse. Lui, il est très au fait de ce qui est en train d'arriver. Lui, il est très au fait de comment ça doit se dérouler. Vous imaginez, Jésus sait qu'il est condamné à mort. De nouveau, juste avant le texte de l'entrée. Il sait qu'il est condamné à mort. Lui, il le sait. Ses disciples le savent. Sa famille le sait. Les pharisiens le savent, puisque c'est eux qui veulent le mettre à mort. Tout le monde le sait. Mais il rentre dans Jérusalem quand même pour s'offrir. Et je trouve magnifique le fait qu'il puisse patiemment organiser cette entrée. Aller me chercher un ânon. Je prends soin du détail. Je veux un ânon qui n'a jamais été monté. Et je rentre dans Jérusalem, je me présente au temple. Quel était l'objectif de Jésus ? Je vous invite à finir pour comprendre un petit peu mieux dans Jean. On va rester dans Jean pour, jusqu'à la fin de la prédication. Parce que Jean, lui, a les trois évangiles en main quand il écrit le sien. Et il se dit, ok, ils ont raconté peut-être de façon historique ce qui s'est passé. Est-ce que je peux raconter différemment pour que ceux qui lisent mon évangile puissent comprendre peut-être l'explication de cette entrée dans Jérusalem ? Et Jean, il va baser tout ce qu'il va écrire sur ce moment-là autour de ce miracle qui est la résurrection de Lazare. Jean va pointer du doigt une thématique, la mort, la résurrection et la vie, autour de cet événement. Il y a deux chapitres extrêmement intéressants, Jean 11 et 12, mais j'aimerais qu'on retienne que deux idées principales de Jean 11 et 12. Tout d'abord, Jean nous décrit un moment difficile pour Jésus. La mort d'un ami proche, Lazare. Jésus, bien que divin, est aussi humain. Il a des épreuves. Mais Jésus utilise ce moment, et c'est très clair dans le texte. Il attend que Lazare soit mort pour venir à Lazare. Il utilise ce moment pour affirmer son autorité et sa puissance, en opposition avec ce que pensent les pharisiens. En effet, Jésus va annoncer qu'il est la résurrection et la vie, avant même de ressusciter Lazare. Et Jean ensuite nous donne l'explication de cette entrée majestueuse qui n'a de sens que si on comprend pourquoi Jésus est venu sur terre. Jésus se présente au temple en tant que roi, tout en sachant que pour entrer dans sa gloire, il devra mourir. Jésus savait qu'il devait porter les péchés des hommes, le péché des hommes, mourir et ressusciter le troisième jour pour entrer en gloire. Jean 12, versets 23 à 26. Seul le roi des rois, le roi parfait, pouvait accomplir cette tâche. Il n'y en a qu'un qui pouvait le faire, et c'est Jésus. Alors, j'entends peut-être dans l'assistance, ok, tout ça c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans un vieux livre, je vous l'accorde, mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Cet événement s'est passé il y a 2000 ans. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet événement aujourd'hui ? C'est effectivement un triomphe. Et pourtant, il est éteint. Bon. Excusez-moi. Vous saurez que mon fils s'appelle Julien. C'est effectivement donc un triomphe, mais peut-être pas comme on l'aurait imaginé. On est très loin des standards hollywoodiens, du grand roi glorieux sur son cheval blanc qui rentre triomphant dans la ville de Jérusalem. Mais quoi qu'il en soit, Jésus, lui, notre roi, est tout puissant. Il vient de le dire dans Jean, il est la résurrection et la vie. Il s'est humilié pour nous afin de mourir pour nos fautes. Lui, le roi serviteur. Lors de cet événement, les témoins, ou nous-mêmes, on peut comprendre, ou on aurait pu comprendre, premièrement, qui est Jésus, ce Messie tant attendu, ce sauveur de l'humanité. Pourquoi il est venu sur terre ? Instaurer son royaume, royaume qui n'est pas de ce monde. Et comment il va accomplir sa tâche ? Il vient offrir le parfait sacrifice qu'il présente au temple ce jour-là. Et ce parfait sacrifice, c'est lui-même. Ce texte nous parle de Jésus, ce texte nous parle de nous, l'humanité. Ce texte dévoile la relation et la manière dont nous regardons Dieu en général. Si nous avons déjà souligné l'importance de cet événement dans les quatre évangiles, sachons qu'il n'est pas exclusif aux seuls croyants, bien au contraire. Nous devons comprendre cette entrée du roi comme significative pour tous, tout le monde. Car Dieu, fait homme, rentre dans sa maison pour payer pour nous. Pourquoi cet aveuglement persiste? Est-ce qu'on peut remédier à ce problème? Tout d'abord, soyons honnêtes, seul, c'est impossible. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa parole, nous avons besoin de son esprit pour réellement comprendre la signification de Jésus qui rentre à Jérusalem ce jour-là. On doit comprendre ce que Jésus a entamé ce jour-là pour réellement accepter ce qu'il fait pour nous. Cet événement va nous aider à voir et à comprendre qui est Jésus. Tout d'abord, contrairement au peuple, usons de discernement lorsque nous pensons ou regardons à Dieu. Attention à ne pas prendre à la légère ce que nous entendons ou voyons sur Dieu. Si les auteurs des quatre évangiles ont pris le temps de nous rapporter cet événement dans un contexte précis, c'est pour que nous ayons une compréhension juste de la personne de Dieu. Et quand nous regardons une prédication sur Internet, ou des messages sur Facebook, ou quand nous utilisons nous-mêmes des versets de la parole de Dieu, prenons garde de la réelle signification de ces versets. La Bible délivre son message. Ne cherchons pas à l'utiliser dans notre propre intérêt. Ensuite, apprenons aussi à chercher la gloire de Dieu dans nos vies et non celle des hommes. Il ne faut pas agir comme les pharisiens, qui même avec la parole de Dieu, n'ont pas compris quelle était l'attente de Dieu pour eux. Ils ont préféré la gloire venant des hommes, leur réputation, plutôt que celle de Dieu. Comment pouvons-nous faire cela? Je crois que nous devons apprendre à remettre Dieu à sa place dans nos vies. Lui d'abord, et nous ensuite. Cherchons à plaire à Dieu plutôt que de penser à notre réputation. Et pour finir, soyons honnêtes comme les disciples. Nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu veut, malgré le fait que nous ayons la parole de Dieu, mais ayons la volonté d'apprendre toujours plus en lui faisant confiance. Nous ne voulons pas devenir des disciples sourds et malvoyants qui ne reflètent pas la gloire du roi vivant qui est venu ce jour-là se présenter, s'offrir pour nos fautes. Et comme des disciples, rappelez-vous Jean 12, verset 16, comme des disciples, souvenons-vous des enseignements de Jésus, même si nous ne comprenons pas. Souvenons-vous, après coup, des enseignements de Jésus et transmettons-les. Parce que qu'on le veuille ou non, la Bible est la référence. La Bible est la révélation de Dieu envers l'homme. Et j'aime beaucoup dire ça, mais toutes les autres religions, systèmes de pensée, philosophie, tout ce qui existe en dehors de Jésus, nous cherchons, l'homme cherche à plaire à un ou des dieux, à un système de pensée, à des traditions, à des ancêtres. C'est l'homme qui cherche à gagner quelque chose. Notre roi, lui, il est venu vers nous. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui, ce jour-là, est entré dans Jérusalem. Il est venu vers nous. Dieu s'est offert pour nous. Il a délibérément offert sa vie pour nous. Il est entré comme un roi, le plus grand roi qui n'ait jamais existé, comme un roi serviteur, prêt à s'offrir sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Je voudrais juste terminer ici et vous poser une question et finir en lisant un texte. La question que je voudrais poser pour finir, c'est: est-ce que tu voudrais faire connaissance avec ce roi? Est-ce que tu voudrais connaître ce roi qui ne ressemble à aucun autre? Et pour nous aider, pour vous aider, pour t'aider dans cette réflexion, je vous invite à prendre Philippiens 2 et nous allons lire le verset 6, du verset 6 à 11. Une parfaite définition du roi serviteur, du roi qui s'est présenté ce jour-là dans Jérusalem. Verset 6, chapitre 2 de Philippiens. Lui qui, en parlant de Jésus, dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Amen.